courage et à très bientôt.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 22 décembre 2020. John Linden à la présentation. Tout d'abord, les titres de cette édition. Au Mali, l'ONU accuse l'armée des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité. Le rapport est sur la table du Conseil de sécurité. Le Soudan retrouve son immunité souveraine aux États-Unis. Le Congrès a adopté hier un texte irrelatif. Il s'agit d'une autre étape de l'accord historique signé par les deux pays. Une petite rallonge pour les détenteurs des téléphones mobiles au Nigeria. Le gouvernement a prolongé de 3 semaines la date limite d'enregistrement des cartes SIM avec un numéro d'identification nationale. Dans ce journal, nous ferons le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, effets marquants. Également, dans cette édition du Monde aujourd'hui, l'économie et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Une fois encore, bonsoir. On le disait en titre, un rapport de l'ONU accuse l'armée malienne d'avoir commis des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité. On fait le point avec Abdourahmane Dia.
Le document établi par la Commission internationale sur le Mali et obtenu par l'AFP a été transmis aux membres du Conseil de sécurité. Cette commission estime avoir recueilli des motifs raisonnables de croire que l'armée malienne a commis des crimes de guerre. Une accusation contenue dans un rapport de près de 350 pages. La commission prône la création d'une cour spécialisée dans les crimes internationaux. Le rapport détaille chronologiquement quelques 140 cas où des crimes ont été commis, emblématiques d'exactions qui ont fait au total des milliers de victimes. Plusieurs signataires de l'accord de paix, dont les ex-rebelles du Mouvement national de libération de l'Azawad, sont également responsables de crimes de guerre selon la commission. Elle a en outre accusé de crimes contre l'humanité d'autres acteurs du conflit, notamment des groupes armés djihadistes, mais aussi de la milice d'Anfan Amasagou, qui s'est érigé en défenseur des Dogons. Établi en janvier 2018 sur la base de l'accord de paix de 2015, la Commission internationale sur le Mali a enquêté sur la période 2012-2018.
Un Sénégalais de 42 ans a avoué avoir tué l'une de ses épouses, une septuagénaire belge disparue depuis octobre dernier. C'est ce qu'a indiqué ce mardi la gendarmerie sénégalaise. Le corps de cette Belge, identifié comme José Christiane Tillmans par la gendarmerie et âgé de 62 ans, selon la presse locale, a été exhumé le week-end dernier à l'endroit désigné par son mari près de Thiès, leur ville de résidence, selon la gendarmerie. Sa dépouille a été transférée dans un hôpital de Dakar et l'enquête suit son cours selon la même source. L'époux, en garde à vue depuis dimanche à Dakar, a avoué son crime et expliqué que lors d'une dispute conjugale le 4 octobre, il a donné à son épouse un coup de tête qui lui a été fatal, selon la gendarmerie. Le gouvernement centrafricain s'est targué lundi de l'arrivée de renforts rwandais et russes après une offensive de troupes rebelles qu'il qualifie de tentative de coup d'État avant les élections du 27 décembre. Mais Moscou a démenti tout envoi de troupes. Nous n'envoyons pas de troupes. Nous respectons toutes les exigences des résolutions de l'ONU, a assuré Mikhail Bogdanov, vice-ministre russe des Affaires étrangères. Nous avons naturellement des gens là-bas en vertu de nos accords avec le gouvernement centrafricain, de nos accords sur la formation de cadres et le travail de nos instructeurs, a-t-il poursuivi. Le premier vol commercial direct entre Israël et le Maroc survolait mardi la Méditerranée avec à son bord le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, et un conseiller du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, preuve que la normalisation des relations entre les deux pays est bien en route. Après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan, le Maroc est devenu le 4e pays du monde arabe a annoncé cette année une normalisation de ses relations avec Israël sous l'égide des États-Unis, avec à la clé un vol direct Tel Aviv-Rabat qui a décollé mardi donc. Le Congrès américain a adopté hier un texte octroyant au Soudan l'immunité légale pour des affaires liées à des attentats passés. Il s'agit de la dernière étape d'un accord historique entre Washington et Khartoum. Eric Manirakiza.
La loi rétablit l'immunité souveraine du Soudan aux États-Unis à l'exception des contentieux encore pendants devant la justice fédérale liés aux attentats du 11 septembre 2001. Le texte comprend aussi une aide de 700 millions de dollars au Soudan et 120 millions supplémentaires au titre du remboursement de sa dette au Fonds monétaire international FMI. Selon le sénateur démocrate Chris Coons, ce texte aidera le Soudan à réintégrer l'économie globale, à promouvoir l'investissement étranger et la croissance économique dans le pays, ainsi qu'à soutenir la transition civile vers la démocratie. Le président américain Donald Trump avait annoncé dès octobre son intention de retirer Khartoum de la liste américaine des États soutenant le terrorisme en échange du versement par le Soudan de 335 millions de dollars de dédommagement aux familles des victimes des attentats perpétrés en 1998 par Al-Qaïda contre les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie. Ces attentats avaient fait plus de 200 morts. L'adoption de cette législation était la dernière condition pour débloquer ces fonds déjà versés par le Soudan sur un compte séquestre.
En outre, le Soudan et l'Éthiopie ont entamé mercredi à Khartoum des discussions sur le tracé de la frontière commune. Mais dès l'ouverture, le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Demeke Mekonnen, a qualifié de non amicale l'attitude du Soudan. Ce dont nous sommes témoins depuis peu ne ressemble pas à des relations cordiales entre deux pays. C'est pour cela que nous voulons réactiver les mécanismes existants, a asséné Demeke Mekonnen lors de la réunion du Haut Comité politique conjoint pour le tracé des frontières. L'accord sur le tracé des frontières remonte à 1902, avant l'indépendance du Soudan en 1956 entre la Grande-Bretagne et l'Éthiopie, mais des différends demeuraient. Et puis, l'ONU et une trentaine de partenaires ont réclamé mardi 156 millions de dollars pour aider à subvenir aux besoins des dizaines de milliers de réfugiés éthiopiens qui ont fui les combats dans la région du Tigré. Les fonds réclamés par le Haut Commissariat aux réfugiés doivent lui permettre, ainsi qu'à ses partenaires, de fournir leur aide pendant la première moitié de 2021, a précisé un porte-parole au cours d'une conférence de presse à Genève. Au Nigeria, le gouvernement a prolongé la date limite d'enregistrement des cartes SIM avec un numéro d'identification nationale pour permettre aux Nigérians ayant des cartes SIM non enregistrées de le faire. C'est la situation d'insécurité grandissante à laquelle le pays fait face qui a obligé le gouvernement à entreprendre une telle initiative. Les détails avec Gilbert Tamba.
Sur décision du gouvernement fédéral, les Nigériens auront 3 semaines de plus, soit jusqu'au 19 janvier, pour obtenir un numéro de carte d'identité, peut-on lire dans un communiqué du gouvernement publié lundi. La NCC, la Commission nationale des télécommunications, pourrait bloquer environ 9,2 millions de cartes SIM non enregistrées si la décision prise par les autorités était appliquée à ces jours. La NCC a ordonné la semaine dernière aux entreprises de télécommunications de bloquer les abonnés qui n'ont pas de numéro de carte d'identité. Depuis, de nombreux Nigériens envahissent les bureaux d'identification à travers le pays dans le but de s'enregistrer et d'obtenir le numéro d'identité national. Le gouvernement fédéral s'est dit préoccupé par la situation d'insécurité dans le pays. Les autorités estiment que l'enregistrement des cartes SIM est un moyen de freiner les attaques terroristes et d'aider également à traquer les criminels. Depuis son lancement en 2007, l'office chargé de l'identification des numéros des cartes d'identité a constamment eu des difficultés à délivrer des cartes d'identité aux Nigériens. Dans certaines situations, il faut jusqu'à 4 ans pour délivrer des cartes d'identité nationales aux personnes qui se sont inscrites.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Du Covid-19, parlons-en justement avec les nouvelles mesures, nouveaux bilans et surtout les faits marquants. Le point sur les dernières évolutions de la pandémie dans le monde, c'est avec Yacouba Ouédraogo.
La Commission européenne a recommandé aux États membres de l'Union européenne de faciliter la reprise du trafic avec le Royaume-Uni pour les voyages essentiels et pour éviter les ruptures de la chaîne d'approvisionnement. D'après les autorités britanniques, 650 camions sont bloqués sur l'autoroute menant de Londres à Douvres, le principal port transmanche. Plus de 800 poids lourds de plus sont stationnés sur un ancien aéroport voisin. De son côté, l'Allemagne a décidé de prolonger jusqu'au 6 janvier la fermeture de ses frontières avec le Royaume-Uni et l'Afrique du Sud. Une cinquantaine de pays ont suspendu leur liaison aérienne avec le Royaume-Uni. BioNTech, à l'origine avec Pfizer du premier vaccin contre le Covid-19 autorisé dans le monde, a assuré être capable de fournir un nouveau vaccin en 6 semaines en cas de mutation du virus comme celle détectée au Royaume-Uni. Taïwan a recensé ce mardi son premier cas de transmission locale du coronavirus depuis avril, ce qui met fin à 253 jours sans contamination. La pandémie a fait au moins 1 703 500 morts dans le monde. Les États-Unis restent le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec près de 320 000 décès pour plus de 18 millions de personnes infectées.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à l'Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Michel Joseph.
Les autorités maliennes ont annoncé lundi la saisie dans le sud du pays d'une cargaison de 143 kilos d'or, d'une valeur estimée à plus de 7 millions d'euros. Le métal précieux était caché dans une voiture en route pour la Guinée et était destiné à l'exportation. La production industrielle et artisanale de l'or fait du Mali le 5e producteur sur le plan africain. L'Agence sud-africaine de lutte contre la corruption accuse Ace Magashule, ou responsable de l'ANC, le parti au pouvoir, de mauvaise gestion d'un projet de ferme laitière. Selon l'agence, près de 15 millions de dollars de fonds publics ont été siphonnés de ce projet qui vise à soutenir les agriculteurs pauvres du centre du pays. La production algérienne pourrait connaître une baisse de 8% cette année du fait de la pandémie du Covid-19, estime le ministre algérien de l'énergie. Selon Abdelmadjid Attar, elle devrait se stabiliser autour de 140 millions de tonnes.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo.
Bonsoir à tous. Basketball pour commencer. La chasse aux Los Angeles Lakers, champion NBA, s'ouvre ce soir. Après avoir perdu 1,4 milliard de dollars de revenus la saison passée, la NBA n'a pas attendu longtemps pour faire démarrer la saison régulière réduite à 72 matchs. De grosses rencontres en vue pour ses débuts. Dès ce soir, premier des 3 duels de Los Angeles entre les Lakers et les Clippers, précédé de l'affiche entre Brooklyn et Golden State pour les retrouvailles entre Kevin Durant et Stephen Curry. Mercredi, Milwaukee et son double MVP en titre Gianni Antetokounmpo débutent leur saison chez les ambitieux Celtics de Jason Tatum. Utah et son duo Rudy Gobert, Donovan Mitchell défient Portland et Damien Lillard. L'épilogue a été fixé au plus tard le 22 juillet, soit à la veille du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Sur le continent, le deuxième tour des préliminaires de la Ligue des Champions a commencé ce soir avec des rencontres alléchantes. Les Young Buffaloes d'Iswatini ont fait match nul à domicile 2-2 face à l'Ice Vita Club de la République démocratique du Congo. Défaite à domicile des Swaneng Galaxy du Botswana 0-2 contre Mamelodi Sundowns d'Afrique du Sud. Le Raja de Casablanca joue contre les Sénégalais de Teguff FC. En Coupe CAF, Salitas du Burkina Faso a fait une bonne affaire en gagnant 0-1 au Soudan devant Alamal Atbara. 0-0 entre l'US Songo du Mozambique et Napsa Star de la Zambie. 1-0 pour les Sud-Africains d'Orlando Pirates en déplacement en Angola pour y affronter Sagrada. La troisième journée des éliminatoires de la CAN des moins de 20 ans s'est jouée hier dans la zone Afrique du Nord, encore battue par la Libye 0-1. L'Algérie est définitivement out et ne verra pas Mauritanie 2021. Dans l'autre match, le Maroc a fait un match nul face au pays hôte, la Tunisie 0-0. Pour rappel, 2 billets sont à prendre pour la phase finale. Le Maroc reste premier à l'issue de la troisième journée avec 4 points, suivi de la Libye 3 points avec un match en moins. La Tunisie a 2 points et l'Algérie ne compte que 1 seul point. Jeudi, le Maroc affronte la Libye et dimanche, la Tunisie joue la Libye. La FIFA a annoncé avoir déposé une plainte en Suisse contre la gestion par l'ancien patron du football mondial, Sepp Blatter, de son projet de musée qui a fermé moins d'un an après son ouverture en 2016. L'organisation explique qu'une enquête menée par des experts externes a fait apparaître des preuves de mauvaise gestion criminelle présumée visant l'ancienne direction de la FIFA et des entreprises nommées par cette dernière dans le cadre du projet du musée du football. Selon la FIFA, ce projet a généré une facture de 462 millions d'euros qui aurait pu et dû être consacrée au développement du football mondial. L'avocat de M. Blatter, Lorenz Erni, nie ces accusations qu'il juge sans fondement.
Merci Yakuba. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. John Lyndon, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour, et on commence par le Mali, où l'armée a commis des crimes de guerre et plusieurs groupes armés des crimes contre l'humanité. Ces allégations émanent d'une commission internationale sur le Mali établie par l'ONU. Des accusations graves contenues dans un rapport transmis aux membres du Conseil de sécurité. Dans ce document de 350 pages, les enquêteurs accusent les groupes armés, mais surtout l'armée malienne, figure au premier rang des accusés de cette commission. Pour une analyse, Bagassi Koura a joint à Dakar Ibrahima Khan. Il est analyste à OSIWA, Open Society Initiative for West Africa.
Cette information vient simplement confirmer ce que beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme savaient. Savaient que dans le centre, le nord, est maintenant ce qu'on appelle la zone du Lipa-Kogoma, aussi bien l'armée malienne, l'armée burkinabé que l'armée nigérienne s'adonnaient à des pratiques qui sont interdites par le droit de la guerre, en tout cas le droit humanitaire. En plus, il y a des milices qui sont plus ou moins tolérées par ces armées ou des milices qui sont créées par des populations elles-mêmes qui, elles aussi, faisaient des opérations qui pouvaient être assimilées à des crimes contre l'humanité. Donc maintenant, on a officiellement la confirmation que de telles pratiques existaient dans la région. Et ça, c'est quand même quelque chose de très sérieux.
Pour la première fois, les conclusions de ce rapport pourront servir devant des tribunaux. Est-ce que c'est un fait important?
Bien sûr qu'il fallait en arriver là. Vous savez, enfin, on a des informations qui corroborent ce que beaucoup de gens savaient. Ces faits-là ne datent pas d'aujourd'hui. Cette guerre larvée qui existe au Mali, qui existe dans la zone, dans la région, est une guerre qui existe depuis des années. Et donc, il y a eu beaucoup d'exactions qui ont été commises de part et d'autre. Ce que ces faits-là, à mon avis, doivent aider à maintenant régler, c'est d'abord régler le problème de la circulation des armes, c'est d'abord interdire, sous quelque forme que ce soit, les milices, les groupes d'autodéfense, en tout cas, qui sont tolérés dans pratiquement tous les pays par les États. Parce que ce sont les actions de ces milices, ce sont les actions de ces groupes-là qui peuvent conduire à des représailles et puis créer des situations comme celles qui sont décrites dans le rapport des Nations Unies. Donc ça doit être la première action. Et la deuxième action, à mon avis, il faut que les armées-là soient des armées républicaines. C'est-à-dire des armées qui sont formées pour ne pas, justement, verser dans des pratiques comme celles qui sont dénoncées dans le rapport. Or, tout le monde sait qu'au Mali, il n'y a plus d'armée. Tout le monde sait que dans beaucoup de ces... que dans les pays voisins tels que le Niger et le Burkina Faso, il n'y a plus d'armée. Et donc, ça doit vraiment être un son de cloche qui vraiment doit réveiller tout le monde pour dire tant qu'il n'y aura pas d'armée professionnelle, on se trouvera toujours dans des situations comme celle-là.
Ibrahima Khan, analyste à OSIWA, Open Society Initiative for West Africa. Il a été joint à Dakar, au Sénégal.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Burkina Faso, l'augmentation du nombre de cas de coronavirus inquiète. Le pays a enregistré plus de 2000 cas ce seul mois de décembre et plus de 5300 cas sont toujours actifs. Les responsables sanitaires pensaient qu'il y a un relâchement des mesures barrières contre le coronavirus. Du côté des citoyens, certains pensent que c'est le gouvernement qui est incapable de faire respecter ces mesures. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Voilà 10 mois que le Burkina tente de repousser le coronavirus, mais impossible. Plus de 2000 cas ont été enregistrés dans ce seul mois de décembre, ce qui équivaut aux 2000 autres cas des 9 derniers mois. Le pays est passé d'un taux de reproduction qui est supérieur à 1. Cela voudrait dire que l'épidémie est active et le nombre de nouveaux cas augmente. Les spécialistes tentent d'expliquer. Docteur Brice Bikaba, président du comité de lutte contre le Covid-19.
Au cours de la période de novembre à février généralement, le système de surveillance notifie une augmentation donc du nombre de syndrome grippal, du nombre d'infections respiratoires aiguës sévères. Et ça, c'est saisonnier, lié donc aux facteurs climatiques, à l'harmattan qui souffle et la poussière. Donc cette augmentation est corroborée par une augmentation du nombre de cas dans plusieurs pays voisins qui ont également des similitudes climatiques avec la nôtre. Nous avons également le non-respect des mesures de prévention contre la COVID, notamment le port de masque, la distanciation physique, les grands rassemblements.
Les responsables en charge de la riposte de la maladie veulent réussir à maîtriser la réduction de nouveaux cas. Et pour cela, le système de santé sera renforcé pour la prise en charge des cas sévères. Docteur Brice Bikaba.
Le nombre de lits de réanimation disponibles dans les hôpitaux est d'environ 82 lits. Pour les respirateurs, nous avons mis récemment à la disposition des hôpitaux 46 respirateurs et 56 concentrateurs d'oxygène. Nous avons poursuivi le renforcement de la capacité des agents de santé. Plus de 4000 agents de santé sont formés ou sont en train d'être formés sur la prise en charge.
Dans les rues de Ouagadougou, les réactions sont divergentes. Antoine Guigman est enseignant.
En tant qu'enseignant, je vais demander à la population tout entière, sans situer des responsabilités par rapport à cette recrudescence, faisons des efforts pour revenir sur ces mesures barrières.
Achille Thiombiano, consultant en intelligence économique.
Le Burkina n'est pas encore un État. Un État, c'est quand même une communauté où des gens sont organisés. Il y a une institution, il y a une discipline à laquelle tout le monde obéit. Mais pour qu'on fasse semblant d'être étonné.
Les responsables sanitaires annoncent que le pays se prépare pour l'introduction du vaccin contre le Covid-19. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
C'est la saison des fêtes de fin d'année. Pour beaucoup d'Américains, c'est surtout le moment de faire les emplettes pour Noël. Parmi les cadeaux les plus prisés des enfants, on retrouve des gadgets et robots de toutes sortes. Mais ceux que fabrique Mike Sena dans sa maison de Los Angeles sont plus vrais que nature. Dans le reportage qui suit, Arzuma Compaoré nous amène à la rencontre d'un fabricant hors pair de robots sortis tout droit de vos films de science et fiction préférés.
Une réplique grandeur nature de l'un des robots préférés des Américains qui bouge, parle et joue de la musique comme celui-ci. Cela ne court pas les rues. Mais au domicile de Los Angeles de l'ingénieur en électronique Mike Sena, cela fait 18 ans qu'il donne vie à des robots.
Je voulais trouver quelque chose que je pourrais faire pour, je suppose, enlever l'ennui de ma vie quotidienne. Et j'avais recherché des idées sur Star Wars parce que j'adore les films, bien sûr. Et j'ai trouvé ce club de fans qui assemble le robot R2-D2. À partir de là, je voulais vraiment faire quelque chose qui montrerait mes talents et que je pourrais présenter ensuite à d'autres personnes afin qu'elles puissent en tirer des leçons.
R2-D2, Wally, BB-8, Yves, la liste est longue. Mike dit que son objectif premier en concevant et en contrôlant ses robots, c'est de transmettre des émotions en interagissant avec le public.
Je vais imiter la version animée au mieux que je peux. J'étudie en quelque sorte le personnage, je vois quels mouvements pourront mieux transmettre cela. Des sourcils battants, de temps en temps, montrent une certaine émotion. L'inclinaison de la tête, et puis il y a les sons qu'il émet. Tout est sélectionné de façon appropriée.
Le choix des robots qu'il fabrique est à la fois méticuleux et stratégique, comme dans le cas de Wally, le personnage principal du film produit par Disney Pixar.
J'ai cherché autour de moi quel genre d'animatronique les gens aimeraient vraiment et qui aurait une longévité. Et bien sûr, les personnages de Disney Pixar ont ce genre de longévité. Ils ne changent pas avec le temps. Et je savais que je pouvais ressortir cela. C'est un peu cela qui m'a inspiré pour lui. Il est très expressif. Il est également très animatronique. Il y a des émotions programmées en lui. J'appuie sur le bouton, il lève son bras, agite sa main pour dire bonjour, puis il repose son bras, juste sous la simple pression d'un bouton. Cela montre la complexité en termes de programmation et la capacité à faire bouger quelque chose en lui donnant un aspect réaliste.
Et l'autre passion de Mike Sina, c'est d'apporter ses robots aux enfants, qu'ils soient dans des parcs ou des hôpitaux.
C'est vraiment la raison pour laquelle j'aime sortir avec ces machines malgré mes obligations professionnelles. En fait, je l'ai fait même quand j'étais très occupé avec les activités professionnelles, à l'appel d'une bibliothèque, ou que ce soit pour les enfants dans un hôpital, parce que nous faisons des choses, vous savez.
Même si cela lui demande beaucoup de sacrifices et d'efforts, Mike dit qu'il ne veut pas s'arrêter. Ce qu'il aime le plus, c'est vivre ces moments magiques où les rêves des petites filles et des petits garçons deviennent réalité au bout de ses doigts.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Congrès américain a annoncé dimanche être parvenu à un accord pour maintenir à flot la première économie mondiale durement affectée par la pandémie de COVID-19. Le plan comprend notamment un chèque de $600 par adulte et par enfant pour les ménages les plus vulnérables, 25 milliards d'aides au logement et 100 milliards pour la réouverture des écoles et crèches. Les démocrates ont également sécurisé une allocation chômage de $300 par semaine contre $600 au printemps. Tout cela est-il suffisant pour stabiliser l'économie et les ménages? Eric Manerakiza a posé la question à Jean-François Seznec, analyste politique et économique à l'Université de Georgetown.
Ça ne suffira pas vraiment pour faire repartir les ménages qui ont perdu leur travail. Hein. Parce que chaque personne va obtenir un chèque de $600, c'est bien, mais par rapport aux États-Unis, ce n'est pas suffisant pour faire vraiment faciliter la tâche des gens.
Combien d'argent fallait-il pour pouvoir justement s'assurer de la relance économique et de la stabilité des ménages?
Écoutez, à l'origine, les démocrates avaient demandé 3 000 milliards d'argent, les républicains avaient offert 500 milliards. Je pense que si vraiment on veut relancer l'économie et aider vraiment les ménages, il faudrait le chiffre que les démocrates avaient donné était peut-être plus proche de la réalité. Et je pense que tôt ou tard, on arrivera à ce chiffre-là, parce que dès que le président élu Biden va arriver au pouvoir, tout ce qui va se passer, c'est qu'ils vont redemander à nouveau 2 milliards de dollars encore, enfin 2 000 milliards de dollars à nouveau. Je pense que ça va prendre pas mal de temps, mais je pense que la crise est tellement grave, finalement, pour tout le monde, qu'ils vont être obligés d'arriver à ce chiffre-là. Quelle que soit la nature de nos idées politiques, je pense que c'est le montant qu'il faudra.
Mais c'est un montant qu'ils pourraient ne pas avoir.
C'est un montant qu'ils pourraient ne pas avoir parce qu'en fait, il faut l'emprunter. Enfin, les États-Unis sont assez riches pour le faire, mais à long terme, ça va faire augmenter les taux d'intérêt parce qu'il va falloir emprunter l'argent. Donc, c'est pas si évident que ça quand même.
Et pourquoi les républicains et les démocrates ne peuvent pas convenir, le même montant? Quel est l'enjeu autour des divergences?
Le gros enjeu qu'il y a eu jusqu'au mois de novembre, c'était les élections, parce que les républicains pensaient que peut-être ils pourraient gagner des élections et qu'à ce moment-là, ils pourraient imposer leur volonté sur les démocrates, et les démocrates pensaient l'inverse. Donc personne ne voulait vraiment négocier. Le jour après l'élection, il y a eu toutes les bagarres sur l'élection elle-même, et donc maintenant, à la mi-décembre, on a pu obtenir un accord parce que la situation plus ou moins stabilisée. Enfin, ce n'est pas tout à fait stabilisé en ce qui concerne la présidence, mais c'est à 90% stabilisé. Et donc, il y avait peut-être à ce moment-là un moyen de trouver une entente où chacun, à ce moment-là, voulait vraiment le bien du peuple américain et pas vraiment de l'avantage de son parti.
Il y a encore une autre élection, le 5 janvier, qui déterminerait la majorité au Sénat.
Effectivement. Et ça, c'est très important parce que si le président élu Biden peut obtenir les deux sièges qui sont en jeu en Géorgie, effectivement, ça lui donnerait le contrôle du Sénat et de la Chambre des députés. Et donc, il aurait beaucoup plus de chances de faire passer son programme économique. Si l'économie ne tombe pas vraiment complètement en botte, si vous voulez, en mois de janvier, février, à ce moment-là, peut-être qu'il y aura un peu plus d'argent qui viendrait, même si les démocrates ne contrôlent pas complètement le Sénat, mais ça va être difficile quand même.
C'était donc Jean-François Seznec, analyste politique et économique à l'Université de Georgetown. C'est la fin de ce journal à la mise en onde de Michel Joseph, Georges Léonard Sagno et Joselle Morissin. À la présentation, John Lydon. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.